le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Bonne année à tous et à toutes. En ce début d'année, je vais vous parler d'une enquête qu'on a menée ces dernières années sur les violences policières, qui est sortie fin 2021. Ça s'appelle Force brutale, enquête sur l'utilisation abusive des matraques de police et d'armes connexes. Parce qu'on remarque que de la Colombie au Bélarus, en passant par la France, des matraques ont été utilisées abusivement par des agents des forces de l'ordre. Et c'est ce qu'on a voulu analyser dans cette nouvelle enquête, en répertoriant 188 incidents survenus dans 35 pays. Alors cette enquête, elle montre que les responsables de l'application des lois, c'est-à-dire le plus souvent les policiers et les policières, transgressent régulièrement le droit international relatif aux droits humains en attaquant des manifestants et des manifestantes qui pourtant ne représentent aucune menace violente à la base. Donc on a mené cette enquête avec la fondation de recherche Omega, et pour documenter les recours excessifs à la force, nous sommes appuyés sur des photos et des vidéos disponibles en libre accès provenant de 35 pays. Ces sources sont des preuves qui montrent qu'il y a des cas de violente répression des manifestations par la police, et ce, partout dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont épargnés par ce fléau de violence policière. Donc on a les armes dites à impact cinétique manuel des forces de l'ordre, c'est-à-dire les matraques et bâtons, qui peuvent causer de graves blessures et même la mort quand elles sont utilisées de façon inappropriée. Donc on a 188 incidents documentés, 35 pays concernés et 500 vidéos et photos qui ont été analysées. Alors on a des exemples au Bélarus, en Colombie, en France, en Inde ou encore au Myanmar. Les vidéos qu'on a analysées montrent des responsables de l'application des lois, donc des policiers, utiliser des matraques et des armes similaires pour frapper des personnes qui sont déjà maîtrisées, hein, qui sont déjà menottées parfois, ou qui sont simplement tenues par d'autres agents. Et donc ces agents continuent de porter des coups dangereux et non justifiés de fait à la tête, par exemple, ou pratiquer des prises d'étranglement, ce qui est extrêmement dangereux et qui n'est pas du tout nécessaire, complètement disproportionné quand la personne est déjà maîtrisée, et même quand la personne n'est pas maîtrisée d'ailleurs, selon moi. On a analysé plus de 500 vidéos qui ont été enregistrées pendant des manifestations entre 2011 et 2021. Donc on a, je le répète, 188 cas d'utilisation abusive de matraques, et seulement, je parle uniquement des matraques, hein, par les forces de police qui ont été identifiées. Les vidéos de 5 cas analysés par notre laboratoire de preuves du programme Réaction aux crises et notre service de vérification numérique sont disponibles sur le site si vous souhaitez vérifier ces sources. Et pour chacun de ces cas, on explique en quoi les normes internationales ont été violées de façon un peu plus précise. Dans une vidéo qui a été filmée au Bélarus, on voit par exemple qu'il y a des policiers anti-émeute qui font descendre des marches à un manifestant. Et il y a un policier qui frappe derrière les gens, alors qu'il opposait aucune résistance à son arrestation. Donc frapper derrière les jambes, ça entraîne généralement le fait de tomber. Et pendant qu'il est maintenu par un policier, le manifestant est frappé derrière la tête à coups de matraque et frappé à coups de poing au visage et à l'estomac. Donc c'est vraiment des images qui sont d'une grande violence. Donc si vous êtes un peu fragile, c'est pas la peine de regarder. Les descriptions sont déjà très difficiles. Alors, infliger des coups de matraque à une personne qui est pourtant maîtrisée, c'est complètement disproportionné, hein, on est tous d'accord pour le dire. Ça signifie que les coups ont été administrés à titre punitif, ce qui constitue une forme de torture finalement, ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Et il s'agit bien là d'une violation des droits humains, une violation internationale des droits humains. Les instruments contondants sont les matraques, et ce sont des armes à létalité réduite, comme ça qu'on les appelle, et c'est ce qui est le plus couramment utilisé par la police et les forces de sécurité à travers le monde. Ça comprend les matraques, les latis, qui sont des espèces de bâtons un peu longs, les schmambok, désolé pour la prononciation, c'est des espèces de fouets un peu rigides. Et ces équipements sont largement utilisés, ils font donc partie aussi des armes les plus souvent utilisées de façon abusive, du coup, en particulier dans le contexte de la répression des manifestations. Certains équipements et armes à létalité réduite peuvent avoir un usage légitime aussi, hein, on ne dit pas le contraire, pour l'application des lois s'ils sont utilisés correctement, donc de façon disproportionnée, de façon proportionnée, et conformément aux normes internationales, là c'est totalement légitime pour les responsables de l'application des lois de faire usage de cette force, mais ces responsables doivent faire face à des situations voilà, qui sont très diverses et qui nécessitent parfois des décisions instantanées, souvent dans des circonstances qui sont très stressantes, voire dangereuses. Mais quelles que soient ces conditions, eh ben, le droit doit être respecté. Donc ça nécessite une formation complète et véritablement une formation qui permette de proportionner l'usage de la force, justement. Au terme des principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, la police ne peut utiliser la force que dans un but légitime d'application des lois. Comme pour les autres équipements utilisés pour recourir à la force, les matraques ne doivent en aucun cas être utilisées pour infliger un châtiment, de fait. Ces règles s'appliquent également dans le contexte du maintien de l'ordre lors des rassemblements publics. Donc manifestations, rassemblements, réunions, voilà tout ça, on doit respecter normalement le droit international sur le recours à la force. Le secrétaire général de l'ONU a chargé un groupe d'experts, d'ailleurs, de présenter des propositions pour la création d'un cadre international pour permettre de réglementer le commerce d'équipements utilisés par les forces de police, comprenant des armes à létalité réduite telles que les matraques et les gaz lacrymogènes. Ce groupe devrait présenter son rapport à l'Assemblée générale en 2022. Comme les armes couramment utilisées par les responsables de l'application des lois sont évidemment susceptibles d'être utilisées de façon abusive, tout cadre international de réglementation de leur commerce doit couvrir le spectre le plus large possible d'équipements de ce type. Le commerce des équipements destinés à l'application des lois, tels que ces matraques, n'est toujours pas réglementé, ce qui est assez scandaleux, et les gouvernements devraient être obligés de procéder à une évaluation rigoureuse des risques avant d'autoriser l'exportation de ces équipements. Avec la fondation Omega, nous, on appelle les gouvernements à soutenir ce processus qui est mené par l'ONU. Et pour que les choses changent réellement, bah, il faut que cette réglementation couvre tout type d'armes, comme les matraques, hein, les plus souvent utilisées de façon abusive à travers le monde entier par les responsables de l'application des lois. Alors, des exemples de violences policières vraiment plus concrets, on en a de nombreux, mais je pense que le plus marquant, c'est les manifestations qui ont gagné tout le Chili à partir de octobre 2019. Vous avez certainement entendu parler de ce mouvement de protestation sociale qui a été réprimé violemment par la police. C'est des milliers de manifestants et de manifestantes qui ont été gravement blessés. Et 2 ans après, les crimes restent impunis. Donc il y a aussi le problème de l'impunité, en fait. Si vous voulez, il y a 2 ans, il y a ce mouvement massif de protestation qui a éclaté au Chili. Ce mouvement a été réprimé dans la violence par les autorités et en fait c'était à l'occasion du 2e anniversaire de ce soulèvement social que nos équipes ont voulu présenter au parquet chilien un rapport sur sa responsabilité et la responsabilité des dirigeants de police. Ce rapport s'appelle en version originale Policias bajo la lupa. Donc je vous invite à le lire, ce rapport qui compile les normes internationales relatives à la responsabilité pénale du commandement des carabineros, c'est-à-dire la police nationale chilienne. Aujourd'hui encore, le gouvernement chilien nie ou minimise les violences qui ont été commises par l'armée et par la police pendant les manifestations de 2019. Et 2 ans après cette répression violente, les enquêtes ont à peine avancé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on appelle à ce que la lumière soit faite sur les violations qui ont été été perpétrée et à une réforme profonde du système de police chilien. Et on espère que ce rapport va aider à mettre un terme à cette impunité prolongée et totalement inacceptable. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement au Chili, pour revenir un petit peu sur les faits? En octobre 2019, au Chili, il y a d'immenses manifestations qui ont éclaté. Ce qui a mis le feu aux poudres, en fait, c'est l'annonce de la hausse des prix des tickets de métro. Nous, c'était l'essence, là-bas, c'était les prix de métro. Et cette annonce, elle a ouvert la voie à toute une série de revendications. Et à la mi-octobre 2019, c'est des milliers de Chiliens et de Chiliennes qui sont courageusement descendus dans la rue afin de réclamer plus de justice sociale, de l'égalité et du respect pour les droits humains. Et parmi leurs revendications, ils demandaient une pension de retraite plus décente, un meilleur accès au logement, à l'éducation et aussi une politique de santé publique de qualité, ce qui était vraiment nécessaire vu la crise du Covid qui est arrivée juste après. Les protestations ont pris de l'ampleur. Du coup, le président Sebastián Piñera a décrété l'état d'urgence et c'est à partir de là qu'a commencé le mouvement social dit Estallido Social en espagnol. L'exécutif a diabolisé les actions des protestations en qualifiant les manifestants d'ennemis puissants contre l'État. Mais ça les a pas du tout découragés. Hein. Le 25 octobre 2019, une immense manifestation qualifiée comme la plus importante du Chili a eu lieu. Plus d'un million de personnes sont descendues dans la rue pour défendre leurs droits. Cette marche a été violemment réprimée, évidemment, par les forces de sécurité. Face à ce soulèvement, les autorités ont réagi par une répression violente et ont érigé la protestation sociale en infraction. Nos équipes de vérification numérique ont pu certifier plus de 200 abus commis par les carabineros entre le 18 octobre et le 30 novembre 2019. Selon les chiffres communiqués par le parquet et par l'Institut national des droits humains, on recensait en mars 2021 plus de 8000 victimes de la violence d'État et plus de 400 cas de traumatisme oculaire au Chili. À ce jour, il n'y a aucun membre du commandement stratégique qui n'a été poursuivi et un grand nombre de fonctionnaires ayant commis des violations des droits humains sont toujours en exercice et continuent de maintenir l'ordre lors des manifestations. Le parquet doit établir au plus vite, sans délai, les responsabilités de toute la chaîne de commandement, y compris au plus haut niveau. Alors on a un exemple de manifestant qui a, je cite, « donné mes yeux pour que le peuple ouvre les siens ». Le 8 novembre 2019, Gustavo Gatica, étudiant chilien de 21 ans, participe à une manifestation à Santiago contre l'augmentation des prix. Un policier tire sur des manifestants et des manifestantes lors de la violente dispersion qui a eu lieu et des projectiles atteignent le jeune homme aux yeux. Et là, c'est le trou noir. Gustavo Gatica restera à jamais aveugle. Et 2 ans après, il réclame encore justice parce qu'il n'y a toujours rien qui s'est passé. Personne n'a été condamné. Pour le 2e anniversaire de ces manifestations chiliennes de 2019, on a lancé une campagne intitulée « Des rues pour se souvenir ». Donc avec plusieurs victimes, on est revenu sur les lieux exacts où elles avaient été attaquées au Chili. On les a photographiées et on a demandé justice à l'endroit même où les violations des droits humains ont été perpétrées. Et pour que ces événements ne tombent pas dans l'oubli, on a téléchargé ces photos sur Google Maps afin que toutes celles et ceux qui naviguent en ligne dans les rues chiliennes soient informés sur les événements tragiques qui s'y sont produits. Et on mènera cette campagne jusqu'à ce que justice soit rendue. Parce que sans justice, il ne peut pas y avoir de changement, en fait, tout simplement. C'est nécessaire qu'il y ait une réforme de grande ampleur de l'institution des carabineros au Chili afin que les forces de l'ordre se conforment aux normes internationale relative à l'emploi de la force. À ce jour, le gouvernement accorde aux carabineros un soutien sans faille, donc impunité totale. Les autorités nient la gravité de ce qui s'est passé il y a 2 ans, ainsi que la nécessité de s'attaquer aux problèmes structurels qui y ont contribué. Donc nous, notre rapport, il propose 5 mesures clés qui permettraient de pallier à ce genre de problème structurel. Tout d'abord, ce serait des mécanismes indépendants et efficaces de suivi des agissements de la police, des mécanismes de participation pour la société civile et les organisations de victimes, des protocoles adaptés afin d'enquêter sur les abus policiers, la reconnaissance d'agissements policiers illégaux comme un problème structurel et enfin la reconnaissance de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques, y compris au plus haut niveau. Alors bien sûr, pour ces problèmes de force de l'ordre, vous pouvez aller sur notre site amnestyinternational.fr pour signer les pétitions qui sont en rapport. Et avant de vous quitter, je vous parle très brièvement du problème de sécheresse à Madagascar, parce que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc la FAO, 95% des personnes à Madagascar sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans le sud de Madagascar. Et en fait, toutes ces personnes vivent de l'agriculture, de l'élevage et du bétail ou de la pêche. Et ces dernières années, en fait, la région a connu des saisons des pluies très inférieures à la moyenne, qui ont conduit à une baisse sévère de la production des denrées alimentaires de base, notamment le riz, le manioc, ainsi que la diminution de la taille et une dégradation de l'état des troupeaux. Donc c'est une sécheresse qui est vraiment très très meurtrière finalement. La sécheresse, elle a décimé les troupeaux aussi, hein, ce qui a fait qu'aggraver la disparition des moyens de subsistance de la population. Donc le Programme alimentaire mondial de l'ONU et de la FAO ont déclaré l'année dernière qu'il y avait environ 1,14 million de personnes qui étaient confrontées à un niveau élevé d'insécurité alimentaire aiguë dans le sud du pays. Près de 14 000 personnes se trouvent dans un état de catastrophe, c'est-à-dire la phase la plus grave d'insécurité alimentaire selon le classement en 5 phases établi par le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Et c'est la première fois que cette phase est déclarée depuis l'introduction à Madagascar en 2016 de cette méthode-là, de ce cadre de classification. Et il n'existe pas pour l'instant de statistiques officielles sur les morts qui sont dues à la sécheresse directement, sécheresse qui a débuté en novembre 2020. Cependant, on peut quand même dire qu'il y a plusieurs personnes qu'on a interrogées, nous, à Amnesty International, qui ont déclaré que des gens étaient morts de faim, effectivement. En mars, Votsora, qui est un fermier âgé d'une cinquantaine d'années, nous a dit qu'il y avait une dizaine de personnes qui étaient mortes dans son village un mois plus tôt et que cinq personnes appartenant au même foyer étaient mortes de faim le même jour. Donc la sécheresse, ça constitue vraiment un risque imminent pour le droit à la vie. Donc on parle de droits humains quand on parle aussi de dérèglement climatique. Et c'est aussi pour d'autres droits tels que la santé, l'accès à l'eau, l'assainissement, la nourriture. Pour les populations du sud de Madagascar, c'est vraiment de nombreux droits qui sont entravés. Dans cette région, 91% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et en raison de cette crise, de nombreuses personnes ont été obligées de migrer pour pouvoir trouver de la nourriture. Les enfants se voient privés de leur avenir parce que quand on a très faim, c'est difficile de continuer à aller à l'école. Il faut aussi soutenir la famille. Donc du coup, on cherche du travail pour venir en aide à la famille. Et les parents, souvent, de toute façon, hésitent à envoyer leur enfant à l'école le ventre vide parce que ça peut être un peu dangereux, ne serait-ce que sur le chemin. La crise, elle a aussi un impact disproportionné sur les femmes et les foyers ayant une femme à leur tête qui vivent souvent uniquement de l'agriculture. Donc encore une fois, les populations les plus pauvres et les plus vulnérables payent le prix pour les agissements et les défaillances des plus gros émetteurs de CO2. La communauté internationale doit donc immédiatement apporter à la population de Madagascar touchée par la sécheresse une aide humanitaire accrue et des fonds supplémentaires pour les pertes et préjudices subis. Ensuite, les pays qui ont le plus contribué au dérèglement climatique et ceux qui ont le plus de ressources disponibles, surtout, doivent également fournir une aide financière et technique supplémentaire pour aider les personnes à Madagascar à mieux s'adapter au changement climatique et à ses conséquences, surtout, notamment aux épisodes de sécheresse de plus en plus longs et de plus en plus intenses. À l'approche de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, nous on appelle tous les pays à s'engager en faveur d'objectifs de réduction des émissions à la fois ambitieux et respectueux des droits humains, parce qu'il faut maintenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 1,5 degrés Celsius. On invite également à s'engager à abandonner rapidement toutes les énergies fossiles au lieu de compter sur des mesures de compensation qui retardent finalement l'action pour le climat et qui risquent d'avoir des conséquences néfastes pour les droits fondamentaux, comme je le disais avant. Et il faut aussi mettre en place un mécanisme mondial pour soutenir les personnes dont les droits ont été affectés justement par le dérèglement climatique. Les États riches en assurant le coût en fait via un financement nouveau, additionnel et non assujetti à un remboursement. Et enfin, il faut garantir le droit à l'information et à la participation concernant les prises de décision liées au climat pour toutes les personnes qui sont affectées à tous les niveaux. Le dérèglement climatique, c'est vraiment quelque chose qui touche les populations les plus vulnérables dans le monde. Et si vous voulez aider ces populations, vous pouvez vous rendre bien sûr sur notre site amnestyinternational.fr pour signer les pétitions en rapport, parce que ça doit maintenant être aussi des décisions politiques et pas uniquement de l'écologie du quotidien. C'est vraiment au niveau politique que ça doit changer et qu'il y ait une véritable coopération internationale pour que les droits humains ne soient pas bafoués. Mais vous pouvez aussi vous engager dans n'importe quelle autre association qui permet justement de pallier à toutes les conséquences que le dérèglement climatique peut avoir. Et vous pouvez surtout en parler autour de vous. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur Radio FM+.